Françoise Trossard et la belle équipe. Avec vous jusqu'à 13h58 à l'affiche Joli Dimanche et exercice autour de l'ange et du billard. Puis LSD, un regard tordu sur les jardiniers de Caillebotte par Dominique Muller. La scène se passe dans un couvent.
Les deux sœurs, sans doute Immaculée de la Conception et Marie-Assomption, ont imaginé le récipient qui versera l'essence à ce qu'elles appelleront « pompe », en référence bien sûr aux pompes de l'église et aux chaussures du pape dont le portrait trône au réfectoire.
Place ensuite au Jacques Vallée jouer à Éval Massy et Hervé Le Tellier pour le tourisme minimal, à Patrice Delbourg pour sa chronique du côté de chez MacNeil et au DLA avec les experts Patrick Beignet, Patrice Minet et Val Massy.
Non, pour moi, on est dans un roman et on est dans une situation soit d'amour tout court, soit d'amour tarifé éventuellement. Poule de luxe et volaille chouchoutée.
Et poule. Mais là... et poule parce que ça se termine par volaille chouchoutée.
Voilà, exactement.
Merci de votre fidélité au Papou. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce numéro que vous pourrez télécharger sur franceculture.fr pendant un an ou réécouter directement sur votre ordinateur pendant 1000 jours. Et pour se lancer, vive le Joli Dimanche d'Hervé Le Tellier, un à la manière de Georges Perec pour ce dimanche de novembre, dimanche lié aux souvenirs.
Je me souviens que le dimanche, il ne sort qu'un seul journal et que son nom, le journal du dimanche, n'a aucune originalité. Je me souviens du dimanche des rameaux, mais je ne sais pas à quoi il correspond, sauf que c'est celui d'avant Pâques, et même pour Pâques, je ne suis pas certain. Je me souviens qu'à Wimbledon, le premier dimanche du tournoi de tennis, par tradition, on ne joue pas. Je me souviens du récit autobiographique de Georges Semprun, quel beau dimanche qui se déroule à Buchenwald par un beau dimanche d'hiver. Je me souviens du tableau Un dimanche de Paul Signac, de cette femme qui regarde par la fenêtre et qui semble tellement, mais tellement s'ennuyer. Je me souviens que Vivement Dimanche, le dernier film de François Truffaut, a été tourné à hier, avant la disparition du vieux cinéma et la restructuration de la vieille ville. En fait, c'est la seule trace qui leur reste. Je me souviens qu'en France, on a toujours placé les élections un dimanche pour que le plus de personnes possible votent et que, conséquence moderne, aujourd'hui, beaucoup prennent leur dimanche. Je me souviens que la fête des mères a été placée le dernier dimanche de mai et que Pétain n'a fait que l'inscrire au calendrier. Je me souviens du Dimanche rouge de janvier 1905 à Saint-Pétersbourg qui déclencha la révolution de 1905. Je me souviens du Bloody Sunday de janvier 1972 à Derry, en Irlande du Nord, où une marche pacifique pour l'égalité des droits entre catholiques et protestants se transforme en massacre, 13 personnes étant tuées par l'armée britannique. Je me souviens du film de Bertrand Tavernier, Un dimanche à la campagne, mais plus très très bien de l'histoire. Je me souviens de la chanson Un seul dimanche au bord de l'eau, chanté par Jean Gabin. Je me souviens que dans Robinson Crusoe, à deux jours près, eh ben vendredi s'appelait dimanche. Je me souviens que les Américains mangent des glaces qu'ils appellent les Sundays. Je me souviens qu'en castillan, Domingo signifie à la fois Dominique et dimanche. Je me souviens des peintres du dimanche, des conducteurs du dimanche, des bricoleurs du dimanche, des écrivains du dimanche. Je me souviens que le dimanche, à la clinique du pied, c'est le jour des tondeuses. On accueille ceux qui se sont passés la tondeuse à gazon sur les doigts de pied. Je me souviens que les papous dans la tête sur France Culture, c'est toujours le dimanche.
Poursuivons notre série du Petit Rimailleur illustré pour un dictionnaire différent de tous les autres, un dictionnaire des papous dans la tête, où les définitions rimeraient en cadence pour être chantées, rappées peut-être. Dictionnaire sonore de la langue, égayé par la subjectivité de chaque rédacteur et l'allégresse des contrôleurs. Deux substantifs au programme du jour pour deux rédacteurs, Gérard Mordillat et Lucas Fournier. Lucas Fournier, le mot billard, dans tous ses sens, vous êtes arrivé, tous ses sens sont à traiter.
C'est vrai.
Et vous serez contrôlé par Hervé Le Tellier.
J'ai essayé de le faire.
Mm-hmm. Enfin, il n'y en a pas tant que ça non plus, des sens.
Mais... quatre sens.
Oui.
Je vous propose un petit slam.
Oh.
Mmh. Oh. Billard, c'est pas de la balle, billard, c'est de la boule. Un tapis vert, on joue, et puis Raoul, ça roule. On s'attrape la queue pour y mettre un bon coup. On caresse les boules, comme il faut, pas beaucoup. Faut la tenir bien droite, et sans que la main tremble. Billard, c'est de l'Eros et Thanatos ensemble. Un tapis vert, on dort, dessus le ventre ouvert, avec le bistouri d'un petit homme vert. C'est juste un petit somme, ou le dernier sommeil. Question d'anesthésie et question de réveil. Le corps sur le billard, le corbillard est proche. Billard, c'est du velours, doigts dans le nez, fastoche. Un tapis vert, on glisse, on déroule, badin, on sait que ce coup-là, il n'y aura pas de gadin. Billard, c'est du bling-bling sur la piste électrique, un tapis vert qui bouge, qu'on secoue frénétique. Si tu le fais trop fort, ça l'énerve, il fait tilt. Et toi, comme un loser, tu te retrouves en kilt. Billard, c'est de l'arnaque, citrou chez les ricains, un tapis vert en triche, welcome chez les requins. C'est un jeu des mafieux, des loubards, des petites frappes, et tant pis pour les caves qui se font plumer la grappe. Billard, c'est comme la vie, tu joues et puis tu perds, tapis vert paradis, si tu loupes, l'enfer. Toujours recommencer, que t'es comme une fuite, et finir au tapis, et sans partie gratuite.
Oh, c'est superbe, hein, c'est superbe. Il slame bien, hein, Lucas.
Oui.
Autant quand il chante, c'est un petit peu particulier, ah, parfois.
Slam intégral.
Mais slam intégral, oui. Alors, est-ce que les quatre sens dont vous avez parlé, Hervé Le Tellier, sont là?
Absolument, tout y est. C'est-à-dire que nous avons la table de billard classique, hein, évidemment, le jeu pratiqué sur une table spéciale où les joueurs font rouler des billes en poussant l'une avec une queue.
Oui, il l'a dit, entendu. Oui.
Absolument. Ensuite, il y a billard japonais, russe, américain. Hein. Et puis, ensuite, on a une troisième exception, qui est la table rectangulaire qui a été citée, qui est celle, évidemment, du billard où l'on joue, le tapis vert, hein, ce qu'on appelle également le tapis vert. Et enfin, l'expression « c'est du billard », n'est-ce pas, où on ne parle absolument pas de l'auteur, je regrette. Mais
oui. Non, c'est vrai.
Et là, je regrette, il n'y a aucune citation, même pas une citation de Dubillard.
Ça, c'est dommage.
Et c'est vraiment dommage. Un petit mot des dialogues serait bienvenu, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Si quelqu'un a une citation à proposer à ce Robert.
Moi, j'ai une citation de Jacques Lacan qui dit « Une fausse queue au billard, c'est du billard. Ça n'a rien à voir avec ce qui se dit sans dire. »
Ah oui. Voilà. Ça donne toujours à réfléchir, Lacan.
Hein. Ah, bah, forcément.
Oui. C'est dans les écrits.
Oui,
ça,
merci, Jean Normandy, à nous faire penser un petit peu. Gérard Mordillat, je vous fais travailler sur le mot ange, parce qu'un jour je vous ai entendu dire mon ange, en imitant Arletty, je crois, et j'ai trouvé que ça vous allait tellement bien, c'était si beau.
Eh bien, c'est exactement la piste que j'ai suivie.
Arletty.
Prévert, qui était le dialoguiste d'Arletty.
Absolument. Alors, vous savez quoi? Vous serez contrôlé quand même, parce qu'il faut voir si vous oubliez des petites choses. Je sais bien que votre définition sera subjective, et c'est le jeu. Mais Lucas Fournier aura peut-être des petits compléments. Vous êtes au mot « ange », Lucas, dans notre dictionnaire de référence?
Oui, en haut de page, d'ailleurs, l'ange, bien placé.
L'article n'est pas très long. Hein.
Non.
Mais c'est une rêverie sur le mot « ange » que je vous demande, Gérard.
C'est ce que j'ai fait.
Ça
se présente en vers libre, l'imitation de Jacques Prévert, et avec des ailes pour s'envoler. Étrange, c'est étrange, dit l'ange. Étrane, c'est étrane, dit l'âne. Prévert avait raison de faire le saut de l'ange, d'offrir à Lacenaire, ange tutélaire, amoureux de Garance, cette réplique, dangereuse bien sûr. Bonsoir, mon ange. Et elle de rire, d'un rire d'ange, qui fait briller ses yeux et friser ses cheveux, de vrais cheveux d'ange, comme en ont tous les enfants du paradis. Loin de là, au cinéma aussi, à Hollywood, Los Angeles, dans la cité des anges, les anges aux figures sales, les anges déchus, les anges qui ne sont pas des anges, taguent sur les murs Burma, B-U-R-M-A. « Be undressed and ready, my angel. » Et tant pis si Angélique, marquise des anges, ange de douceur, bouche en cœur et peau d'ange, s'offre à l'ange exterminateur, l'ange des maudits, qui la désangélise, lui attache les ailes, lui cloue le bec et la passe à la broche. Car qui fait l'ange, fait la bête. Et faute de vie rêvée, ange pur, ange radieux, angélique doit faire appel à Mère Sainte Jeanne des anges, une faiseuse d'anges. Elle doit y perdre quelques plumes, tandis qu'un ange passe. Silence, c'est l'Angélus. Au château Saint-Ange, mon ange gardien se glisse dans mon nid d'ange. Enfin, je suis aux anges. Ne parlons pas de son sexe. Le sexe des anges est un secret comme celui des mésanges, ces oiseaux célestes qui volent dans le ciel comme volent au plafond de ce divin palais, angelots fessus, poutis angéliques. Mon ange me ravit, me comble, m'exalte. Ça m'ouvre l'appétit. Il faut que je mange. Enfin, je suis servi d'une divine volaille. Oh, femme, j'ai faim d'un ange à ma table.
C'est superbe, évidemment, c'est beaucoup mieux que le dictionnaire, ça j'en suis sûre, Lucas Fournier. C'est différent, oui, c'est pas le même genre.
C'est beaucoup mieux que le dictionnaire. Il y a tout le dictionnaire déjà, et plus encore. Il y a une seule citation sur Ange que Gérard nous a donnée,
oui.
Celle de Pascal.
Oui.
Je vous la rappelle peut-être.
Bien sûr.
L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange
fait la bête.
Oui, vous la connaissez tous. Il y a peut-être une définition dont je ne suis pas sûr d'avoir entendu l'expression, qui date de 1552. « Grand poisson de mer d'une forme intermédiaire entre la raie et le requin dont la peau est employée en maroquinerie. »
Ah.
C'est le galucha.
Le galucha, mais oui.
Le galucha.
On l'a pas eu.
C'est vrai, j'ai oublié le galucha dans le palais Saint-Ange.
Ouais, vous auriez pu le glisser là.
Mais franchement, non.
Non.
Il n'a rien à faire.
C'est parfait.
Le galucha est un signe d'eau, on n'allait pas le mettre avec l'ange.
Est-ce que quelqu'un a une petite citation sur l'ange?
Oui.
Patrice Caumont?
Absolument.
Elle est signée?
De Paul Claudel. Les nuages striés sont les passages cloutés où au feu du couchant, les anges passent.
On va gêner le cocteau.
Oui. Ah bon?
C'est à table.
Oui.
Un ange passe.
Oui.
Quelqu'un dit un ange passe.
Oui.
Et Cocteau dit qu'on l'encule.
Et vous croyez vraiment que ça va faire une chute?
Ah ben si en plus l'ange se casse la gueule. Alors,
tu penses, Serge?
Je pense que le 30 novembre, c'est les 30 ans des Papous.
Oui.
Et je me dis que 30 ans, c'est jeune. Très jeune, très jeune.
C'est vrai, Serge. Et on n'a pas tous les jours 30 ans. Ça nous arrive une fois seulement. Et ce jour de fête, des 30 ans des Papous dans la tête, oui. Vous avez bien entendu, 30 ans et peu d'émissions atteignent cet âge adorable. Eh bien, nous les célébrerons ces 30 ans en public le dimanche 30 novembre prochain à la Maison de Radio France toute la journée avec tous les papous, qu'ils soient sur la scène du Studio 104 ou dans la salle à vos côtés. Avec nous les Sardines, accompagnées au piano par leur chef Gabriel Godard et au bandoneon Pablo Gignoli et aussi deux invités surprises. Pour deux enregistrements des Papous, le premier de 11h à 13h, le second de 15h à 17h, et vous pouvez assister aux deux si vous le souhaitez, deux fois 2 heures. Et aussi une rencontre dédicace autour des livres collectifs des Papous dans la tête, et puis le tableau des 30 ans qui sera peint toute la journée et devant vous par Ricardo Mosner. Un tableau qu'il découpera en fin de journée en 30 petites toiles comme autant de cadeaux à distribuer pour nos années passées sur France Culture. Alors venez faire la fête avec nous dimanche 30 novembre à la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Tous les renseignements à l'avis du club des Papous dans la tête et sur notre page Facebook. On en reparlera. Thank you. L.S.D. ou Léger strabisme divergent, un regard tordu sur un certain tableau, loin de toutes les idées reçues le concernant, loin aussi de ce que le peintre a souhaité croquer. C'est le regardeur qui fait le tableau et aujourd'hui c'est une regardeuse, Dominique Muller. Et elle a sa façon de voir les choses, Dominique, son regard en biais et son imagination papou pour raconter des histoires folles. Quant au choix du tableau, on le doit à Hervé Le Tellier. Hervé.
Là, j'ai proposé qu'on s'intéresse à un tableau de Gustave Caillebotte qu'il a peint en 1877 et qui s'appelle Les Jardiniers.
Oui, je crois que je l'ai dans l'œil. Mais on va demander à Jacques Jouet de le décrire précisément. C'est un magnifique tableau de Caillebotte.
Vous êtes d'accord, votre avis.
Ah oui, moi, je trouve qu'il est...
Mais moi, je ne suis pas en situation de le juger.
Description objective. Oh là là, Et je compte sur Abel, comme d'habitude, pour mettre le lien vers le tableau sur le site des Papous, à la page des Papous du jour. Voilà, ça, c'était un message personnel pour Abel. Personnel.
Mais moi, je compte sur Cain pour qu'il ne mette pas ce tableau. Bon.
Alors, cette description objective, Jacques.
Le tableau figure un jardin potager en position diurne, un jour vraisemblablement caniculaire. Trois rangs de plantations que je ne saurais identifier fuient jusqu'au fond du tableau, tandis que parallèlement, sur la droite, un rang de grosses cloches de verre fait de même. Puis cinq rangs de salades naines, puis un broussaillis de feuillage nettement plus compact avant un muret avec fruitiers plantés en espalier le long du mur d'enceinte dont on voit un angle. Avant le mur du fond, des châssis. Au-delà du mur du fond, des peupliers en ligne. Si je me suis permis d'affirmer que le jour est caniculaire, c'est que les deux jardiniers mâles, en pantacourt, sont pieds nus et protégés par un chapeau de paille. Le jardinier du premier plan, celui qui verse deux arrosoirs en même temps sur deux pieds de verdure différents, a ses propres pieds nus au frais, ce qui ne paraît pas insoutenable, bien au contraire. Le frais du sol préalablement arrosé est sombre si on le compare à la partie qui attend encore l'eau providentielle. Je précise que les cultures sous cloche ont déjà été arrosées, si l'on en croit la couleur sombre de la terre également sous la cloche, qu'une cale glissée sous le verre laisse bâiller un petit peu. Le second jardinier, qui apporte les arrosoirs pleins et s'apprête sans doute à remporter les vides, a bien de la route à faire jusqu'à la réserve d'eau. Le tableau a été peint à une époque qui ne connaît pas le tuyau d'arrosage. Donc, le tuyau d'arrosage a sans doute été inventé après 1877, peut-être en 78. Le travail est pénible. L'arroseur laissant tomber l'eau directement sur les feuilles, ce qui ne se fait jamais.
Surtout en plein soleil.
Oui,
attends,
oui.
On arrose le pied normalement. Par ailleurs, il y a peut-être encore un peu trop de soleil au risque de griller les plantations avec de l'eau excessivement chaude au bout de quelques minutes. C'est à se demander si le peintre a jamais jardiné de sa vie.
Citadin.
Bon, c'est une description diaboliquement précise, je dirais. Hein, on a tous le tableau comme ça devant les yeux. On a l'impression quand même aussi éventuellement que les deux messieurs font pipi, non? Vous trouvez pas?
Ils ont deux énormes arrosoirs.
Non, je parle pas de l'arrosoir.
Alors, ils sont vraiment bien montés.
Je parle du
Quelle imagination.
Bon, en tout cas...
Non, pas une seconde. Alors, vraiment,
non, c'est vrai. Bon.
Dominique, je ne pourrais plus voir ce tableau de la même
Dominique Muller, vous avez un point de vue sur ce tableau, bien sûr.
Et comment?
Comme nous tous. Bon, il est sûrement meilleur que le mien.
Parce
qu'apparemment,
personne
n'est d'accord avec moi.
C'est à souhaiter.
Jacques Jouet se demandait si le peintre avait jamais jardiné.
Oui.
Eh bien, je répondrai non, car ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une scène très intime, voire secrète, que le peintre a saisi tel un paparazzi perché sur le mur d'enceinte, ô combien muré, vous le voyez, d'un couvent. Les deux personnages qui s'affairent sont deux bonnes sœurs très âgées, encore vêtues de leur surplis et protégées par un tablier. Elles prennent soin de dissimuler leur visage pour ne pas être reconnues dans le monde. C'est qu'elles vont le côtoyer, le monde, là-bas, derrière la longue haie de peupliers où passe la première route nationale du pays. Dans les couvents, il est d'usage de gagner humblement son pain en fabriquant des confitures, des savonnettes et autres articles brodés que même au temps de Caillebotte, plus personne ne venait chercher dans cette chaste clôture. C'est ainsi que Mère Véronique de la Sainte Face de Notre Seigneur, que l'on appellera Véro par commodité, eut l'idée de diversifier les activités de sa communauté. En effet, sur cette route, au-delà du mur, passait et repassait le jeune Louis Renault, acharné à l'invention de la voiture à moteur, dont les explosions empêchaient les sœurs de dormir. Pourquoi ne pas vendre de l'essence à ce garçon et ses amis, se dit alors Mère Véro, au lieu de broder nos bavoirs pendant des mois pour des mécréants qui préfèrent les théâtres et les cocottes. Cette idée de novatrice précursive allait exiger de longs efforts et c'est cette admirable ferveur que Caillebotte a dépeint. Les deux sœurs, sans doute immaculées de la Conception et Marie-Assomption, les yeux trop abîmés pour les travaux habituels, ont imaginé le récipient qui versera l'essence à ce qu'elles appelleront « pompe », en référence bien sûr aux pompes de l'église et aux chaussures du pape dont le portrait trône au réfectoire. Cette essence, elles l'ont trouvée jaillissant dans leur jardin. Et ce sont de multiples petits puits que nous voyons alignés, cachés sous les salades. Bien sûr, Mère Véro, une forte femme, n'ignore pas que l'entreprise est aléatoire, soumise au progrès de Louis Renault. Non qu'elle n'y croit pas au progrès, mais « un tien vaut mieux que deux tu l'auras », récite-t-elle Matthieu 12, 23. Aussi a-t-elle fait tourner par sœur Bernadette d'Avila, une souffleuse de verre renommée, des cloches sous lesquelles le couvent rangera bonbons, confitures, savonnettes, les revoilà, afin de les vendre aux usagers de la route. De même, les salades plantées où jaillit l'essence serviront aux petits plats proposés dans ce que les couventines songent à appeler à la bonne franquette, le premier des fast-food ou des restaurants.
Elle est très très maligne.
Très en avance. Ah oui, oui, oui. Mais l'atmosphère du tableau n'a que faire de ces considérations mercantiles. Elle est empreinte d'une sérénité laborieuse et humble. Il est remarquable de voir une nouvelle fois que Caillebotte, peintre des tâches modestes, a rendu en gestes concrets la foi inébranlable de cette congrégation, insensible aux morsures du soleil et au fait que, il faut bien le reconnaître, la voiture ne sera pas inventée avant une génération. Mais que vaut le temps quand on a l'éternité devant soi ?
C'est vrai, ça.
C'est beau cette idée d'éternité. C'est très beau. C'est très beau.
Allez, 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 à Jacques-Cours-de-Rome, prends la force, la taille, pédale, talons. Allez, allez, allons, à Jacques-Cours-de-Crosse, prends l'écorce du colosse, et du cabasson, et du cabasson. Allez, allez.
Camille, allez, allez, allez.
Les pas poussés dans la tête sur France Culture.
Et jusqu'à 13h58, Violaine. Et c'est l'heure du tourisme minimal. Novembre ne se prête guère au voyage. Novembre gris, peu de lumière, des jours si courts. Mais la grande joie intérieure de chacun est le dur désir de bouger. Il est temps de changer de rythme et d'adopter le tourisme minimal. Celui qui met l'aventure au coin de la rue, sans empreinte carbone catastrophique pour la planète et sans débourser trop d'argent qu'on ne pourrait plus donner aux impôts. Avec Jacques Vallée, nous avons un bon plan à tester en compagnie de Jacques Jouet, Eva Almassy et Hervé Letellier. Votre suggestion, Jacques ?
Ben moi, je me souviens de Melvin qui écrit « Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends, arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre et surtout, lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large.
Oui.
Et moi, quand mon âme se noircit ainsi, je vais à la laverie automatique la plus proche.
Ah.
Rue des Haies, j'ai l'impression d'aller à la campagne pour une cure de régénération mentale, une façon de me donner du large. Alors, ce dimanche matin, la pluie semble s'installer pour la journée. J'ai besoin de me laver l'esprit. Je décide donc de passer la journée dans la coquette petite boutique blanche avec l'enseigne qui se détache en lettres bleues, laverie libre service. 8h du matin, je me présente à l'ouverture. Une noire attend abritée sous un porche avec deux enfants, un accroché à son dos, l'autre porte un gros sac de linge sale. Tandis que je m'installe confortablement sur un pliant que j'ai apporté, la jeune femme charge une machine d'une capacité de 7 kilos. Elle a apporté sa propre lessive, sélectionne le programme, programme 2 couleurs, 60 degrés, 45 minutes, puis introduit un jeton livré par un distributeur qui rend la monnaie, prix 4 euros. C'est parti. Je me laisse bercer par le ronronnement de la machine, fixant le manège du tambour qui m'invite à la méditation.
Mmh. On sent le vécu. Hein.
Ouais, c'est le voyage intérieur de Jacques Vallée, oui.
2 heures plus tard, je suis au large. Il y a 5 machines sur 7 qui tournent ensemble et 2 des 3 immenses sèches-linges qui occupent le fond de la boutique. Le linge danse devant mes yeux dans un ballet entraînant. Le séchage particulièrement est fascinant. Le linge s'envoie en l'air et retombe avec des grâces d'anges qui planent. On dirait d'énormes flocons qui retombent lentement. Je me sens l'esprit plus léger, 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 la cervelle vide. Cependant, l'affluence du dimanche matin me ramène sur terre. Les gens ne cessent de se succéder pour charger les machines. Puis, selon la durée des programmes, d'une demi-heure à 1 heure, ils vont faire des courses ou, pour la plupart des hommes, une halte au bar PMU à l'angle de la rue. Sur un côté de la boutique, une machine à laver plus grande, 16 kilos, remplie par un jeune étudiant qui a tout empilé pêle-mêle. Blanc, couleur, synthétique, nylon, laine, je ne sais à quelle température, mais ça a l'air d'un curieux malaxage. Par intermittence, un objet métallique oublié ou une boucle de ceinture cogne contre le hublot de la porte comme s'il implorait qu'on le sorte de là. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Il occupe un fauteuil noir et lit absorbé un petit coin de paradis d'Alain Minc. À un moment, il se tourne vers moi en extase.
C'est un texte de Lavrie, il faut dire.
À un moment, il se tourne vers moi en extase. Ce mec me donne la pêche. Puis ce con se met à crier d'un air entendu « Yes, we can ». Sur l'autre chaise, une maman avec son gamin hyperactif qui l'interroge sur tout. « C'est quoi ?» Ça, c'est un distributeur d'adoucissants trésors. Tu vois le petit ours, c'est marqué Cajoline. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je regarde une machine vide avec l'envie de l'envoyer ce môme sur l'orbite. L'après-midi, relâche, enfin seul. Je mâchonne un sandwich en voyant la dernière machine de séchage agiter son linge mollement. Pour combattre cette impression d'étuve, encore shootée par l'odeur de lessive, je laisse la porte ouverte sur un peu de fraîcheur. Dehors, la pluie continue de rincer les voitures. Pour moi, le temps s'est arrêté, je suis loin de tout. Je resterai ainsi des jours en suspens. En attendant quoi ? Les fins d'après-midi pluvieuses vous font vous poser de drôles de questions. L'étudiant, lui, aurait dû s'en poser une. En sortant son linge, ses pulls étaient devenus des brassières. Preuve qu'on ne peut pas tout faire. Mon odyssée savonneuse s'achève. Je rentre chez moi en me récitant le poème de Gaston Coutet, « Jour de lessive », où il se sent régénéré lorsque sa mère étend sur le pré le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit mai. Et je me demande si, quand même, l'époque n'a pas essoré la poésie.
Oh là là! On devrait quand même inviter Jacques Vallée de temps en temps le dimanche, quoi, parce que s'il fait trois, ça tous les
il
dimanches...
Il chanterait trois jeunes tambours, enfin, pourquoi pas.
Mais vous n'avez pas lavé, alors? Vous avez juste regardé les autres laver.
Non, mais je rêvais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tambour
qui tourne. Oui. Bon, bah, écoutez, et c'est ouvert tous les dimanches.
Oui, j'y étais.
Alors, l'Africaine fait toujours un programme de couleurs, hein, c'est ça.
Oui, on l'a remarqué.
Jacques Jouet, l'expérience de la laverie de la rue des Haies, ça vous dit quelque chose?
Oui, mais je suis très proche de Jacques puisque je suis son esprit.
Oh là là, ça doit être compliqué quand même.
Je suis son esprit en fin d'opération.
En fin de tambour?
Oui, en fin de tambour. Donc, l'esprit de Jacques qui parle, qui est un esprit pur, propre et monochrome.
Et souple, adouci.
Ah, et adouci. Mon cœur est comme un cygne ou un tapis de neige, pompant du sang blanchi, légère teinte grège, mes idées de yogourt ou bien de chantilly, s'innocente couchée dessus un drap de lit. Confiture de lait sur papier d'imprimante, je bois à petits traits une infusion de menthe. Sous la couleur médiane au drapeau tricolore, je suis le blanc de l'œil et celui de l'ivoire, et les dents du sourire sur un lit de coton, et la mie du pain frais trempé dans du corton. Je suis immaculé. Rien. Le vent dans la voile, avant le premier coup de pinceau, quoi ? La toile.
Oh là là.
C'est El Blondie de Shadow.
Ah non, mais l'esprit de Jacques Vallée est devenu
magnifique.
Impeccable. Il n'y a plus qu'à faire sécher. Non, on peut l'étendre là, c'était tout propre.
Il y a des pinces à linge. Prenez. Et Valmassi, ça paraît assez magique, la laverie.
Ah oui, absolument. Je suis bien placée puisque je suis celle qui surveille les caméras de surveillance et qui décrypte les vidéos.
Vous êtes à la ville de Paris?
Absolument. Oui.
Et alors?
Et voilà. Herman Melville a aussi écrit que les villes sont toujours les mêmes, tandis que la campagne change à toute heure, selon les saisons, les lumières. C'est que Melville était subtil, il préférait 50 nuances de vert à 50 nuances de gris. Je ne parle pas des draps qu'on apporte à My Beautiful Laundrette, que j'aime tant contempler moi-même. Jamais une agression, pas de hold-up, pas de couteau tiré, des accidents de lavage tout au plus. Je ne sais si Melville a tant raison que ça, la rue des Haies change constamment. Si l'asphalte est gris sans nuance, le flux des passants ondule au moins autant qu'un champ de seigle, et leur caquetage n'a rien à envier à celui d'une basse-cour. À cette diversité que j'observe, impassible, 24 heures sur 24, fait exception à un seul constant, le monsieur qui vient et qui revient, qui entre à la laverie et reste là un bon moment. Laverie, my love. Les statistiques disent que les couples n'achètent plus de bagues de fiançailles, c'est la première machine à laver achetée en commun qui signifie l'engagement. J'en déduis qu'il doit être célibataire ou divorcé. À force, j'ai appris à l'aimer beaucoup.
Ah bon ?
On voudrait m'installer à la campagne et me transformer en épouvantail. Je préférerais ne pas.
C'est une intellectuelle, hein, quand même. On ne met pas n'importe qui derrière les caméras de surveillance.
Mais c'est que, ah oui, mais les filles sont toujours plus qualifiées que les mecs à poste égal.
Ah bon,
les filles ont eu beau faire des diplômes et les diplômes.
Ah oui, elles ont toujours des boulots déqualifiés.
Voilà, hélas, comme ça.
Elle est très observatrice.
En tout cas, elle
a vu le détail de tout ce qui se passait.
Elle a remarqué que vous étiez un homme seul. À mon avis, il y a peut-être une histoire qui peut débuter entre vous.
Il faudrait déjà être derrière les caméras. Voir.
Sauf si Hervé Le Tellier postule lui aussi. Non, donc, vous êtes qui?
Je suis la lessive.
Oh,
en poudre.
Spécialiste du blanc ou de la couleur?
Je fais tout. Chandail rétréci, chaussettes avec trous, cravate bouillie et beau pyjama en pilou, un slip kangourou, un peignoir en drap, un pantalon noir et un très joli petit mouchoir. Je joue du tambour avec des bas de soie et c'est rigolo, je fais de la mousse à gogo. J'ai plus de thermostat, plus personne fait ça. Je loue au Karcher, c'est moins banal et c'est moins cher. Je fais blob, je fais blob. Je m'appelle Ariel, mais on dit blob. Je fais l'essorage sur Programme 5. J'adore tourner à toute beurzinque. Je ne fréquente que des enzymes pour nettoyer les colandimes. Je fais blob. Écoutez bien ça, re-blob. Et quand c'est Programme court, je suis toujours à la bourre.
Petite, elle pensait qu'embrasser les grenouilles, de se piquer les doigts à la pointe des quenouilles, suffisait pour qu'un prince un jour vienne les réveiller, que les fées leur marraine penchées sur leur berceau feraient d'elles des reines, diadèmes et trousseaux. Mais c'est des embrouilles, des imbroglios, les carrosses, les citrouilles, Andersen et Perrault.
Chanson de David McNeil, c'est dans son nouveau disque « Tout chaud sorti ». McNeil qui avait fait un petit bout de chemin avec les Papous, c'était il y a longtemps, les Papous avaient 10 ans à l'époque. Il avait testé aux Papous ses lettres à Mademoiselle Blumenfeld et écrit quelques poèmes pour notre petit rimailleur illustré. McNeil et une rencontre avec Patrice Delbourg. Alors, vous le savez, Patrice Delbourg soutient la chanson française et se régale à l'écouter. Enfin, pas toutes les chansons, ni tous les chanteurs. Je vous renvoie à ces mélodies chroniques parues au Castor Astral, des portraits sur le grill des chanteurs qu'il aime et de ceux qui l'insupportent. Et parmi ceux qu'il aime, avec tendresse comme un frère, eh bien, il y a David McNeil. Patrice Delbourg pour un nouveau portrait chronique de David McNeil.
Cool pour le ramage, cool pour le plumage. David McNeil est un enfant démesuré né par inadvertance à New York City, en même temps que le premier champignon atomique. À l'écouter chanter, On sent d'emblée que ce grand blond avec une guitare noire ne se résoudra jamais à grandir. Avec sa manière tendre et lettrée d'une finesse rarement rencontrée sous nos cieux tempérés, il nous livre Un lézard en septembre, son premier album studio depuis 1991. Ses paroles, avec la lucidité des grands cabossés de l'existence, ressemblent à des bouteilles jetées à la mer, mais sans surplus de désespérance. Les mots, il les tord, il les découpe, il les scinde d'un brusque soupir pour en tirer toute la substantifique moelle de la note bleue. Une marqueterie au petit point. David McNeil est un mosaïste de la ritournelle. Il usine son texte en orfèvre avec l'extrême réserve du dernier des Mohicans égaré sous les néons là de la grande ville cannibale. D'une précision diabolique, dilettante insatiable, McNeil évoque ses souvenirs en courte histoire sur un air de blues décalé, de mélodies country, de bossa nova ou de jazz flegmatique dans diverses versions acoustiques. De dépression en addiction de whisky bien tourbé, en crabe au poumon, le voilà de retour avec un album où, d'un point de vue purement stylistique, quitte à paraître démodé, nul mieux que lui ne trace le sillon d'une chanson en terre francophone, le type même du pur songwriter. Le mot auteur-compositeur-interprète à son sujet semble trop guindé. Certes, il ne possède pas le contre-ut au fond de sa poitrine, mais un attachant filet de harangue dans une carcasse de docker. D'emblée, un duo avec Alain Souchon, frère de sang, accroche le pavillon. Pavillon qui n'est pas de complaisance. À 30 ans, CFA, il faudrait être fa de penser qu'à cet âge, on peut rester volage. Un autre duo, Jim et Jules avec Robert Charlebois, vieux camarade de virée aussi, vous met groggy pour le compte. En contrepoint, un florilège de noms de poètes persille l'album, comme autant de balises fraternelles, Dubélé, Nerval, Rilke, Rimbaud, Schiller, Lautréamont, Dante, Apollinaire ou Shelley. Ces livres, neuf en 40 ans, tous édités chez Gallimard, s'il vous plaît, portent des titres qui lui ressemblent. Si je ne suis pas revenu dans 30 ans, prévenez mon ambassade. Ou tous les bars de Zanzibar. Chaque page y raconte le film de sa vie, les années de collège à la dure, en compagnie d'un certain Patrick Modiano, tout nouveau prix Nobel. Son enfance passée à Vence, dans l'arrière-pays niçois, charmante cité frileuse des arts et des fleurs, dans les pas de son célèbre paternel, Marc Chagall, au doux regard de faune. Ses copains d'alors s'appelaient Braque, Dufy, Miro, pas Matisse, avec lequel c'était la guerre. Petit, il s'amusait à peindre le fond d'étoile immense dans l'atelier de son papa. Il le raconte. Quand je regarde le grand cirque, je sais que la tache bleue, là, au centre, c'est moi. Longtemps, il a caché cette ascendance pour qu'on ne lui serine pas qu'il profitait de son statut de fils de. Âgé aujourd'hui d'un siècle moins un tiers, grandi entre baby-boom et guerre froide, dans un monde de rupture, il a fait ses débuts dans la carrière avec Pierre Barouche et le mythique label Sarava. Yves Montand a porté au succès son Hollywood, vous vous souvenez, sa mère dansait dans les bars,
imitant Gene Harlow,
son père lançait des poignards,
au cirque à Buffalo,
magnifique Françoise. Il composa Mélissa pour Julien Clerc, Casablanca ou Je veux du cuir pour l'éternel Souchon. Une atmosphère de douce mélancolie irrigue son disque. Et comme il a toujours aimé le partage, McNeil a convié du beau monde en coulisses, la famille Woolsey, la famille Chédid, Michel Jonas, Françoise Hardy et même Carla Bruni, nul n'est parfait. Léger, amer, raffiné, toujours élégamment ciselé, notre géant ménestrel pratique une langue rare dans notre goualante contemporaine, loin des citrouilles chromatiques de Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo ou Didier Barbelivien.
Il y aura du courrier.
Dans les bagages de sa petite mythologie portative, on croise les filles de Victoria's Secret, un parfum de Guerlain, les frères Ripollin ou la place de Fürstenberg. Les mélodies étouffées de David McNeil vous creusent l'âme comme une roulette de dentiste. Au fond de son gosier, somnole tout le charme entêtant d'un piano-bar, à l'heure humide où les histoires d'amour commencent toutes à ressembler au désastre de Pearl Harbor. David McNeil demeure un boiteux professionnel de l'âme, gentleman globe-trotter par vocation, esthète promotion pieds nickelés, un colosse aux pieds d'argile qui réchauffe l'élégance discrète des derniers habitués du tangage et du roulis dans les soutes de vieux cargos en partance ou sous les bogies de l'Orient Express. Faites passer.
Petite, elle pensait qu'embrasser les grenouilles et se piquer les doigts à la pointe des quenouilles suffisait pour qu'un prince un jour vienne les réveiller.
David McNeil, vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. Et à suivre jusqu'à 13h58, le jeu des suppositions et le DLA ou diagnostic littéraire à l'aveugle. En piste, Jacques Vallée d'abord pour une histoire façon « Suppose que tu t'appelles ». Histoire dont la chute sera calembourgeoise et culturelle à la fois, c'est trop fort. À qui dédiez-vous votre histoire, Jacques ?
À Hervé.
Oh, comme c'est gentil.
Il est content.
Imagine Hervé, tu t'appelles Du.
Du.
Simplement D-U.
Vous voulez bien ?
Bien sûr, Du, pas de problème.
Simplement D-U, tu aurais pu être du machin, du truc, et partout paraître comme un fils de duc. Eh bien, plus rustique, tu as cet honneur d'être dans un cirque simplement dompteur. Et Du, tu présentes un couple de lions, la tigresse ardente, superbe et sauvage, et le mâle sage à ta dévotion. Or il arriva que cette diva soudain de sa cage s'échappe, et de rage chope un malheureux, puis en moins de deux le met en charpie. Et toi, mon cher Du, devant cette furie, que fais-tu ? Eh bien, Du ose, il veut que son lion prenne position, oui, qu'il s'interpose. Du crie, Du appel, Du cri de plus belle pour qu'il intervienne, que le mâle vienne mater sa femelle et qu'il mette fin à son festin indu. Du encore appel, et voilà soudain le mâle entendu.
Oh, oh, mais comme c'est joli.
Ah oui, ah, très beau.
Puis je vous vois bien comme dompteur. Hervé, il a le profil. Hein.
Ah oui, mais ça, j'ai la casquette aussi. Oui.
Dernière séquence de ce numéro des papous dans la tête, le DLA ou diagnostic littéraire à l'aveugle, un jeu pour fins joueurs et grands lecteurs, pour les amateurs aussi. Un fragment de littérature proposé avec soin par Dominique Muller. Elle a une très belle bibliothèque, Dominique, pleine de livres de très bons auteurs. Et elle a picoré comme ça une quinzaine de lignes dans un de ses bouquins et les propose à notre expertise à tous. Anonymement, attention, pas même l'indication de l'éditeur, ce qui serait un énorme indice, non. Et elle seule sait qui a écrit les lignes qu'elle va nous lire. Je ne suis pas dans la confidence. À nous de réfléchir, de décortiquer cet extrait pour oser avancer un nom d'écrivain qui pourrait en être l'auteur. Pas facile pour nos experts, Eva Almassy, Patrick Beignet et Patrice Minet. Mais ils ont tant lu et ils sont si malins. Et en seconde chance, Dominique leur donnera le choix entre trois écrivains. On vous écoute, Dominique Muller.
Elle lève les bras et tente de nouer un voile noir autour de sa nuque. Elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas. Elle se recule vers moi sans un mot. Je lève les bras pour l'aider. Les siens retombent. Je tiens les bords arachnéens de l'étoffe et les écartant pour les fixer. J'aperçois, à travers la fente du voile noir, son corps gracile, gainé d'un déshabillé orange. Les rubans qui l'amarrent à ses épaules glissent et il s'affaisse lentement. Un corps nu, gracile et doux, miroitant d'écailles argentées. Il glisse lentement le long des fesses minces d'argent poli et sur leur sillon, une ombre d'argent terni, doigts mouvants, froids et calmes, un contact, un contact. Un petit soupir, inconscient, innocent, mais approche et entend une voix, un étourneau sous les roues d'un titan secouant, secoueur de la terre. S'il vous plaît, monsieur Dieu, grand monsieur Dieu, au revoir, grand monde, aber das ist eine Schweinerei. De grands nœuds sur ses petites chaussures de bronze, les ergots d'une volaille chouchoutée.
J'aime bien ce texte, moi. Vous aussi ?
Oui, j'aime beaucoup.
Oui.
Oui, oui, c'est un très joli texte.
Il y a plein d'images formidables. Patrick Béni, une première impression.
Il y a plein d'images formidables.
Mais vous n'aimez pas.
Je ne suis pas là pour donner mon goût.
Oui.
Mais tu en as pourtant.
C'est très théâtral.
Oui.
Ça évoque plein de choses.
Oui, très bien. C'est très constructif, mais c'est oui. Pierre par pierre mais qu'on c'est construit la maison.
C'est quelqu'un qui a un problème de souffle, je crois. Je n'arrive pas à trouver le rythme. Elle, je dirais, parce que pour moi, c'est irrécusablement
une femme qui a écrit ce texte. J'y ai pensé aussi, oui. Uh-huh.
Voilà, qui est à la recherche d'un rythme, d'une phrase parfaite.
Et ne le trouve que
ça
peut-être quelques pages plus loin, oui.
On peut espérer. Ou alors peut-être sa vraie vocation, c'est d'écrire en allemand. C'est peut-être un texte de Tommy Ungerer qui exprimait sa féminité, je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Minet? Première impression.
Moi, j'ai toujours aimé la science-fiction.
Ah oui, bon.
Voilà, alors nous avons un certain nombre d'éléments qui appartiennent à la science-fiction et j'aime bien ça. L'argent, vous savez, le surfeur d'argent, par exemple. Vous n'avez pas lu ça?
Non. C'est,
oh, et vous avez Titan, la planète Titan. C'est quand même formidable aussi. Voilà, ça serait plutôt de la science-fiction des années 50. Hein, voilà. Secoueur de la Terre.
C'est étrange, ça. Hein,
ah oui, c'est beau.
Ouais, c'est beau.
Je, qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu, j'en sais rien. Mais ça veut dire quelque chose, forcément. Voilà. Et Monsieur Dieu, ça, c'est vraiment de la science-fiction. Hein. C'est James Herbert, c'est tout ça, quoi.
Ah bon? Oui. Eva Almassi, qu'est-ce que vous en pensez de ce texte? C'est une traduction, c'est joliment écrit, non?
C'est très joliment écrit. Les répétitions de mots sont vraiment volontaires, car ponctuées à chaque fois, donc elles ont leur fonction et pas du tout viendraient par négligence.
Elles ne sont pas fautives.
Pas du tout, au contraire.
Rien à corriger.
Si.
Ah bon? Alors,
bien sûr, je corrigerai. Moi, je laisse passer jamais trois phrases avec elle, et surtout deux phrases de suite avec je. Ça, c'est pas très bien, mais c'est parce que c'est un texte du XXe siècle et que tout le monde n'aime plus le style absolument d'orfèvre et parfait que, pour ma part, j'affectionne.
Vous n'aimez pas le « elle ne peut pas » ? Non, elle ne peut
si,
pas.
Si, ça elle j'aime. Non, c'est le trois phrases avec « elle » que je n'aime
elle
pas.
Lève. Elle ne peut pas, elle se recule.
Voilà. Mais j'aime beaucoup la situation, j'aime beaucoup l'homme qui intervient pour rhabiller une femme tout en lorgnant sur son déshabillé orange dessous. Donc il y a aussi cette dualité. Je lève les bras, les siens retombent. Donc on est dans ces contrastes, mais minuscules et intimes. On est un texte près du corps et par quelqu'un, pour moi, un homme, mais qui s'est donné de la valeur au raffinement féminin.
Bon, très joliment dit tout ça. Alors, une femme pour Patrick Beignet, un homme pour Eva Almassi, je ne sais pas, pour Patrice Minet.
Ben, c'est de la science-fiction, c'est donc... C'est peut-être un homme-femme ou encore un autre sexe.
C'est une araignée, les bords arachnéens de l'étoffe.
Est-ce que c'est écrit directement en français, Patrick Beignet?
J'espère que non.
Ah bon, alors...
Non, je vois assez bien ça traduit d'une langue d'Europe centrale, du polonais par exemple. Il y a une école polonaise de science-fiction.
Ah bon, vous en tenez pour la science-fiction
Je ne suis pas du tout hostile à cette hypothèse.
Non. Ah oui. Et pourquoi il y aurait cette phrase en allemand?
Ah bah, vous savez, les rapports des Polonais et des Allemands,
c'est parce que c'est Pologne-Allemagne.
En fait, dans le texte originel, c'est écrit en allemand et la seule phrase en allemand est écrite en français.
Il fallait bien adapter. Ah, très malin. Eva, traduction.
Moi, je pense que ça pourrait être une très belle traduction, bien sûr, mais ça peut être écrit tel quel en français. Et il y a là un tour de force magnifique. Ça, c'est les articles. On a une ombre. Après, on n'a même pas d'article tellement on est dans l'indéterminé. Doigts mouvants, froid, calme. Un contact, un soupir, un étournon, une voix. Après, on est très concret, bien sûr. Et on retombe sur... les ergots d'une volaille chouchoutée. Donc, ce qui est le plus du détail, quoi. Ces espèces de pantoufles de verre pour le prince diplomate que j'ai en tête, qui devient là des chaussures de bronze et qui il y a des ergots. Alors, c'est un styliste de l'écriture, mais il pourrait être styliste au sens de couturier.
Uh-huh.
C'est vraiment cousu, là.
Ah oui. Il semble vous approuver, Patrick Beignet. Vous avez hoché la tête.
Ah bon?
Oui.
Non, je me sens exclu. C'est peut-être le moment où j'ai pris conscience, exclu de ce texte. Oui. Je n'y accède pas.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Ben justement, j'aimerais le savoir.
C'est ça le problème.
Ouais. La chute sur la volaille chouchoutée, je dois dire, ça me dépasse. Non, c'est un texte qui me déborde, si je peux dire.
Vous pensez que le livre entier est comme ça?
Oui.
Donc vous n'y avez jamais
accédé.
Il
n'est peut-être pas très long, il n'est peut-être pas très long.
Ah, ça pourrait être une nouvelle. Mais
il y a un côté théâtral, est-ce que je dis ça?
Oui,
très
bien.
Je vois tout à fait. Je ne sais pas, une évocation, Mila Michael dans une mise en scène de Partage du Midi, par exemple. On nous décrirait comme ça.
Oui.
Même si je ne fais pas Claudel jusqu'au bout, hein, la Schweinerei, mais par là, je pourrais peut-être m'immiscer dans le texte.
Ça dépendrait du metteur en scène.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font d'habitude ensemble, ces personnages? Enfin, je veux dire, quels sont leurs rapports en dehors de cette scène?
Il y a de la séduction. On peut peut-être voir deux personnes, l'une essayant d'exciter l'autre, probablement. En tout cas, elle excite l'auteur.
Mais elle a l'habitude de se montrer toute nue, comme ça? Ou c'est un moment?
Je le souhaite. C'est une actrice.
C'est une actrice.
Avec, moi, je dirais une actrice avec son habilleuse, qui est une nouvelle habilleuse, qui n'est pas au courant des habitudes de la maison, peut-être.
Oui.
Et voilà. Qui est tout émue. C'est un peu all about Eve, d'une certaine manière.
Ouais. Ah oui,
tout émue,
oui,
d'approcher ça.
Oui.
La grande vedette, et elle en perd beaucoup de moyens.
Ah, c'est pas bête, ça. Mais... on regarde Dominique, mais elle ne dira rien.
Ah, je ne dis rien. Ah, je suis de marbre. Non.
Mais vous vous réjouissez de la conversation?
Elle n'est pas idiote.
Ah, c'est très gentil. On fait donc la continuer.
Franchement, elle n'est pas idiote.
Voilà, c'est beau quand même, un corps nu, gracile et doux, miroitant d'écailles argentées.
Mais oui.
C'est quoi? C'est une sirène?
Elle est déguisée en sirène, oui. Enfin, elle est habillée par l'habilleuse en sirène, comme dit Patrick, je ne sais pas.
Oui, elle vient de retirer ses deux jambes pour montrer sa jolie queue de poisson.
On est au théâtre aussi pour vous, Eva?
Non, pour moi, on est dans un roman et on est dans une situation soit d'amour, tout court, soit d'amour tarifé éventuellement, poule de luxe et volaille chouchoutée.
Une poule. Mais une poule parce que ça se termine par volaille chouchoutée.
Voilà, exactement. Mais non, je pense qu'on est avec un homme amoureux, donc je pense à deux auteurs diplomates et il y en a un que j'ai souvent envie de corriger au sens de couper, mais je ne couperai surtout pas cette page-là.
Ah, très bien.
Des auteurs diplomates.
Oui. Elle avance les pions de son futur nom.
Moi, j'ai pas eu de nom. Claudel, qui est un
diplomate. Absolument, lui aussi.
Ah oui, un troisième.
Bien sûr, on le réécouterait volontiers, ce joli texte, Dominique Muller.
Elle lève les bras et tente de nouer un voile noir autour de sa nuque.
Je trouve qu'elle le lit très nouveau roman. J'avais déjà remarqué ça à la première lecture.
Que puis-je faire
d'un indice, Dominique?
Non, pas du tout. Je lis ce que je vois.
Elle a tellement lu le robe grillé.
Voulez-vous quelques onomatopées? Elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas. Elle se recule vers moi sans un mot. Je lève les bras pour l'aider. Les siens retombent. Je tiens les bords arachnéens de l'étoffe et, les écartant pour les fixer, j'aperçois à travers la fente du voile noir son corps gracile, gainé d'un déshabillé orange. Les rubans qui l'amarrent à ses épaules glissent et il s'affaisse lentement. Un corps nu, gracile et doux, miroitant d'écailles argentées. Il glisse lentement le long des fesses minces d'argent poli. Et sur leur sillon, une ombre d'argent terni. Doigts mouvants, froids et calmes. Un contact. Un petit soupir, inconscient, innocent, mais approche et entend une voix. Un étourneau sous les roues d'un titan, secoueur de la terre. S'il vous plaît, monsieur Dieu, grand monsieur Dieu, au revoir, grand monde. Aber das ist eine Schweinerei. De grands nœuds sur ses petites chaussures de bronze, les ergots d'une volaille chouchoutée.
Pour ceux qui ne parlent pas allemand, on pourrait traduire quand même Aber das ist
eine Schweinerei,
mais ça c'est une cochonnerie.
Donc il y a volaille et cochon.
Ouais. Dites-moi, Patrice Minet, est-ce que c'est écrit directement en français, votre histoire de science-fiction?
C'était un peu une blague, la science-fiction, mais c'est vrai que c'est un autre monde. C'est pour ça que le côté théâtre c'est aussi de la, pas de la science-fiction, mais vraiment de la fiction. Voilà, et comme c'est une scène qui est assez théâtrale, avec les étoffes, le corps d'argent, les bruits, les soupirs, qui sont quand même un petit peu joués, inconscients, innocents, bon, voilà. Mais approche et entends. C'est une adresse directe au lecteur ou à quelqu'un d'autre. Et la question, c'était quoi ?
Est-ce que ce serait écrit directement en français ?
Oui, pour moi, c'est du français. Oui. Sauf l'allemand.
Vous avez dit effectivement que ça pouvait être aussi une traduction à l'envers. Quoi. Ouais. Patrick Beignet, donc, vous aviez une piste polonaise, mais c'était
non, elle
ne
me mène
plaisanterie.
Pas très loin. Oui. Très drôle, mais plaisanterie. donc, je me rabats sur le français.
Ah ouais ?
Oui. Ce n'est pas un français que j'approuve énormément, d'ailleurs, mais enfin...
Et alors, pourquoi les mots en allemand ? Pourquoi pas en anglais ? Pourquoi pas en français ?
Ça doit être le contexte qui explique ça.
Oui.
Hein, il y a ce personnage de Monsieur Dieu. Le seul auteur que je connaisse qui parle de Monsieur Dieu, c'est Jarry. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit l'amour absolu de Jarry que nous ayons ici.
La volaille chouchoutée, ça pourrait être Jarry.
Oui. Voilà, si je me maintiens dans mon hypothèse de la loge de la grande actrice, qui serait en train de se maquiller en ondine, effectivement, bon, je pourrais construire assez facilement un petit roman
qui
mettrait tout ça.
Qu'est-ce qui se passerait après ?
Ah bien, Monsieur Dieu, qui, je ne sais pas, qui est le producteur de la pièce, ça entrerait, et puis voilà. Il ne se passerait rien d'autre que ce qui se passe sur cette page-là, mais c'est fondé sur la fascination de ce rythme un peu mou qui prend pas corps, malgré le désir.
Je comprends pas votre réticence vis-à-vis de ce texte. Enfin, moi, je le trouve joliment écrit.
Je les bords arachnéens de l'étoffe, j'aime pas tellement l'adjectif arachnéen.
Oui, non, mais là, vous citez le passage le plus exigeant.
Raconte qu'est-ce que c'est joli, les rubans qui l'amarrent à ses épaules.
C'est joli, mais le déshabillé orange.
Parce que ça connote la femme.
C'est la couleur que vous n'aimez pas ?
La conjonction
des deux.
Déshabillé et orange.
Avec le voile noir, c'est intéressant.
Qu'est-ce qui se passe après, vous, Eva ? Vous avez une hypothèse, vous êtes romancière.
Ça, c'est le quasi premier moment d'une rencontre avec j'avance d'un pas, je recule de deux, ou l'inverse. Et donc, c'est les mouvements d'approche.
Et c'est écrit à quelle époque ?
Deuxième moitié du XXe siècle.
Oui, d'accord, pas d'accord,
oui,
Patrick.
Oui, années 60-70.
Oui, Patrice
Mouy
aussi.
Oui, peut-être d'accord. Avant, peut-être après aussi.
Vous avez quelque chose d'autre à dire avant d'offrir des noms ?
Si c'est un bon livre, ce sera un roman polonais. Je ne peux pas exclure complètement, mais je ne pense pas que ce soit un roman polonais.
Pourquoi vous dites si c'est un bon livre ou...
Si c'était, parce que je n'arrive pas à imaginer autour de ça
bon
300
livre.
Pages.
D'accord. Ah, mais ça peut être un bon petit livre.
Pour moi, les romans, c'est à partir de 360 pages. Au-dessous, c'est de la nouvelle.
Écrit petit, les 360 pages.
Voilà, oui.
Encore 10. Eva, vous avez un nom, puisque vous avez des hypothèses.
Dans une hypothèse, c'est plutôt 200 pages, et dans l'autre hypothèse, c'est plus de 1000, dont on a découpé d'ailleurs un roman de 200 pour pas que ça fasse long. Et donc, première hypothèse, c'est Romain Gary, et deuxième hypothèse, c'est Albert Cohen. Et ce serait un extrait de Belle du Seigneur.
Oui, Romain Gary ou Albert Cohen. C'est pas impossible, enfin, je ne sais pas.
Rien n'est
possible. J'aurais pas pensé comme ça, mais... Patrice Minet.
Écoute, Eva, moi, le premier nom que j'ai écrit, c'est Romain Gary.
Aussi, oui.
Commentateur de science-fiction bien connu.
Ah, oui. Oui, je pense à cette délicatesse. Et puis, des fois aussi, cette distance qu'il y a chez Romain Gary et la sensualité. Voilà.
Très bien, ce serait dans quel roman ? Ça, c'est vraiment une question subsidiaire.
Claire de femme.
Claire de femme. Et pour vous, Patrick Beignet ?
Eh bien, je n'ai pas lu suffisamment Romain Gary pour y penser.
Oui.
Mais je vais vous citer le nom d'un auteur que je n'ai pas lu du tout.
Polonais.
Encore moins que Romain Gary.
Oui.
Non, je ne sais pas de quelle origine elle est. C'est Emmanuel Arsan.
Ah oui, parce que vous avez dit que c'était une écriture féminine.
Voilà, c'est comme ça que j'imagine Emmanuel. Mais je n'ai pas
le dit. Roman érotique,
oui,
Emmanuel,
oui.
Ce serait.
Et je vois tout à fait Alain Cuny en Monsieur Dieu.
Écoutez, Dominique, vous avez l'air navré. Alors là, l'écoute
non,
de
pas
ce nom.
Pas vraiment.
Alors, Eva Almassy propose ou Romain Gary ou Albert Cohen. Patrice Minet, Romain Gary également, et Patrick Beignet, Emmanuel Arsan, l'auteur d'Emmanuel. Est-ce que vous, vous avez préparé une liste de trois noms, oui, parmi lesquels, évidemment, il y a le bon, oui. Est-ce que les
hélas,
noms que je viens de citer,
hélas,
ne hélas, sont pas non, dans la non, liste?
Alors, j'ai trois propositions, pas ordre alphabétique.
Oui.
C'est Julien Green, James Joyce ou Orhan Pamuk. Je vous signale qu'il a eu le prix Nobel en 2006, quand même, ce n'est pas un parfait inconnu. C'est un Turc, donc, né en 52.
Oui.
C'est le seul des trois noms que je connaisse. Qui sont les deux autres?
Alors, redites-nous les trois. Julien Green.
Green, Joyce et Pamuk.
Et Pamuk. Bon, alors évidemment, on peut se poser des questions. D'abord, il n'y a pas de femme, Patrick Beignet, donc ce n'est pas une femme qui a écrit ce texte.
Non, ce n'est pas Emmanuel Arsan. Donc.
Non.
C'est dommage. Oui.
Qui est le plus proche de Romain Gary, Patrice Minet, entre Pamuk, Joyce, Green?
Vous me posez la question, et ben je vous réponds. Ben aucun.
Ah ben voilà.
Aucun.
Oui.
Alors.
Vous avez lu Pamuk?
Non, pas dans cette existence, peut-être dans une autre. Non, je n'ai pas lu le Turc. Ouais. Et James Joyce, je ne le vois pas non plus.
Ouais, c'est difficile. Hein. Vous voulez passer votre tour?
Ce n'est pas pour vous aider, mais je vous signale que Pamuk a fait à Istanbul, en vrai, un musée qui s'appelle le Musée de l'Innocence, après avoir écrit un roman qui s'appelait le Musée de l'Innocence. Ah, où c'est plein de petits mégots, toutes choses qu'il aurait ramassées sur les traces d'une femme aimée. C'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je précise ça. Sans que ça n'intervienne sur... naturellement votre non,
pas
joie.
Pas on peut y penser maintenant. Vous poussez le pion Pamuk quand même. Donc, c'est très perturbant parce que où elle pousse quelqu'un qui est au
mais
contraire
je
une
je
erreur
pousse, je peux pousser les autres aussi.
Pousser
si vous
les
voulez.
Autres aussi,
alors,
si vous plaît.
Julien Green, il a ce côté très sensuel et en même temps très en retrait de la sensualité à cause de Dieu. Voilà. Et Joyce, bah, c'est Joyce, je peux vous faire une explication.
Ah, mais moi, je vais faire alors l'explication de Joyce. C'est que c'est un recueil de tous les styles, hein, parodier. Donc, il y a de tout dans Joyce. Et moi, j'ai déjà amené d'ailleurs un extrait du liste que absolument personne n'a deviné, mm-hmm, ni même soupçonné. Donc, moi, je vais prendre l'option Joyce parce qu'il y a Molly. Donc, il y a il y a cette femme qui pourrait totalement être habillée comme ça. Et c'est un recueil de textes, en fait. Joyce est vraiment le roman intertextuel par excellence. C'est possible.
Ah ben voilà, c'est argumenté.
Et en plus, Albert Quen n'aurait pas dû lire Joyce parce que c'est pour ça qu'il met tout le temps des monologues intérieurs que je couperai donc de Belle de Seigneur pour l'améliorer.
Bon, Patrice Minet, je reviens vers vous.
Oui.
Alors,
je suis d'accord.
Bon.
Non, je dirais Julien Green. Mais James Joyce me paraît plus probable que tout à l'heure. Voilà.
Ah oui, parce qu'elle
quand
a bien
argumenté. Peut-être que si je l'avais lu, j'aurais bondi dessus. Simplement, et je regrette, parce que ces histoires de mégots et tout ça, je trouve ça absolument adorable. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. Donc
Julien Green est celui qui se rapproche le plus de la science-fiction, vous diriez, dont
ben
il
déjà,
était
Green,
question.
C'est un mot anglais. Vous savez que la science-fiction est très, très anglo-saxonne.
Oui.
Non, voilà, c'est rien de plus intelligent à dire.
Ah, mais c'était déjà très bien. Oh,
flatté.
Patrick Beignet.
Oh, j'ai peur d'avoir encore moins de choses intelligentes à dire que Patrice. Écoutez, je partirai du principe que Joyce, que Eva a très bien analysé, Joyce a écrit dans tous les styles, même ceux d'Orhan Pamuk et de Julien Green. Donc, c'est certainement une page de Joyce que nous avons là.
Bien, écoutez. Donc, deux Joyce pour Eva Almassi, pour Patrick Beignet, un Julien Green pour Patrice Minet, aucun Pamuk.
Quel dommage.
Dominique Muller, quel dommage, parce qu'ils auraient gagné.
Non, parce qu'il y a néanmoins deux gagnants.
Ah.
Mais ça aurait aussi pu être de Green. Quand on a lu Moïra, ça peut aussi être de lui. C'est pour te consoler, oui. Patrice.
Mais tu pouvais
alors
pas
donc,
tricher.
C'est du en Joyce, fait, c'est quoi?
Et le texte s'intitule Giacomo Joyce.
Ah, ça se lit.
C'est un texte publié très récemment d'une dizaine de pages. Et ça, Patrick avait très bien senti la brièveté du texte. De même, Patrice, quand il a dit science-fiction, c'est pas si idiot que ça, parce que ce sont des amours totalement inexistantes. C'est une forme de science-fiction amoureuse. Et où Joyce se moque de lui-même, se prénommant Giacomo Tel Casanova, qu'il n'est absolument pas. Il l'a écrit entre 12 et 14, on ne sait pas très bien quand, alors qu'il donnait des cours d'anglais à Trieste. Et ça doit être pour ça qu'il y a l'allemand aussi.
Voilà.
Et en particulier, il est très émoustillé par une petite jeune fille qui s'appelle Amalia Popper. Et il lui tourne autour. Et elle, elle a cette espèce de malignité de la petite bourgeoise, d'où la volaille, parce que il y a tout un côté comme ça. Et naturellement, il se moque de lui-même. Il développe aussi son fantasme érotique. Je trouve que vous n'avez pas été aussi sensible que moi au côté très érotique de de la personne qui n'y arrive pas, quoi. Ce que vous avez souligné aussi les uns les autres, qu'il était en dehors, comme ça, une espèce de spectateur. Mais sous cette autodérision, il y a aussi une vraie ode au désir, c'est-à-dire c'est en même temps, il se ridiculise et en même temps c'est un magnifique regard sur le désir. Et je cite Yannick Enel qui a écrit une postface pleine de dévotion d'ailleurs, c'est une phrase du texte qui est « Cela n'arrivera jamais, tu le sais bien, quoi alors ? Écris-le abruti, écris-le !» Que sais-tu faire d'autre ? Et ça, c'est tellement Joyce, n'est-ce pas ?
Et il sait tellement bien faire ça. Et il est tellement précurseur que, bon, ben, on l'a daté 50 ans plus tard.
Ah oui, ça, on s'est trompé. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Julien Douminc. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an, c'est le podcast, ou à réécouter directement à la page des papous du 2 novembre pendant 1000 jours. Page sur laquelle vous pouvez poster vos remarques, questions, suggestions, rubrique commentaires. Et puis promenez-vous dans nos pages livres des papous et à la vie du club, où vous verrez toutes les infos concernant notre dimanche 30 novembre à la Maison de Radio France pour les 30 ans des papous dans la tête. La fête avec nous toute la journée. Au revoir, je vous laisse avec Antoine Perrault. Il arrive, il est presque là. Tire ta langue, c'est dans une poignée de secondes pour un très bel après-midi sur France Culture. Ciao.